Le rapport de Jésus avec l'argent est une chose un petit peu complexe, ou plutôt qui semble trop simple, c'est-à-dire que clairement, quand on lit l'Évangile, Jésus semble contre les riches. Jésus, bref, semble ne pas aimer les riches. Et ça, on le trouve dans maints endroits. « Malheur à vous, les riches !» nous dit l'Évangile de Luc, dans ce passage de Luc 6, 20, « Malheur à vous, les riches !» Où il dit à l'inverse aussi, « Heureux les pauvres !» Et il dit également, dans la conclusion de ce texte du jeune homme riche, en Matthieu 19, « Il est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, ce qui laisse, vous l'avouerez, quand même peu d'espoir à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Alors il est vrai que vu comme ça, il semblerait que l'affaire soit réglée, les riches sont mauvais, sont perdus, et les pauvres sont bons et sauvés. Mais vous le savez, l'Évangile est toujours plus complexe qu'il y paraît. Tout d'abord, premier indice qui montre que les choses ne sont pas si simples, c'est que Jésus, en tout cas, n'était pas si pauvre que cela. Alors je passerai sur ces vieux commentaires qui datent du Moyen-Âge, des gens qui disaient « Mais attendez, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait du trésor offert par les rois mages ?» Alors bon, je passerai là-dessus, l'épisode des rois mages étant, à mon avis, évidemment légendaire, je ne m'attarderai pas sur cette question. Mais tout au moins, il semblerait que Jésus, en tout cas, n'ait pas été un SDF. Je ne dis pas qu'il était milliardaire, mais Jésus n'était pas un SDF. Bon, il était en tout cas d'une famille, je dirais d'une famille bourgeoise, pourrait-on dire, d'un père artisan. Il n'est pas montré comme étant né, vous voyez, d'un père berger ou laboureur. Son père était effectivement un artisan, il était, je dirais, il était charpentier lui aussi. À l'époque, c'était pas du tout rien. Et d'autre part, on nous montre, et ça c'est assez intéressant, qu'à la fin de sa vie, il possédait une robe, et que cette robe, les soldats se sont disputés pour l'avoir, en la tirant au sort, ce qui laisse penser que cette robe avait une certaine valeur. Quand un SDF meurt dans la rue, en général, les gens qui ramassent le SDF qui meurt dans la rue ne se disputent pas pour prendre les fringues que le SDF a sur le dos. Eh bien, Jésus avait certainement une robe qui valait de l'argent, puisque les soldats se disputaient pour l'avoir. Alors, quand Jésus demande au jeune homme riche « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi », pourquoi Jésus n'a-t-il pas, avant sa mort, vendu sa robe si luxueuse pour se revêtir d'un sac et donner le produit de cette vente pour les pauvres ? Ensuite, on nous montre aussi Jésus qui, avec sa petite bande d'apôtres, on sait qu'il avait évidemment une cagnotte. Il avait même choisi un trésorier pour gérer l'argent de son équipe d'apôtres. C'est vrai, il n'avait pas très bien choisi son trésorier, puisque l'évangile de Jean nous dit que c'était Judas. Mais en tout cas, il avait quand même un trésorier. Et donc, ses apôtres n'étaient pas des va-nu-pieds, allant de porte en porte en faisant une sorte de mendicité, si vous voulez, avec une gamelle en tôle, en mangeant ce qu'on leur donnait jour après jour. Ils géraient quand même un certain bien, en quelque sorte. Et puis d'autre part, si on regarde ses fréquentations à Jésus, prenons Pierre. Pierre m'intéresse, parce que justement, on le voit dans l'épisode du jeune homme riche. Pierre dit à Jésus, « Voici, nous avons tout quitté pour te suivre. » Est-ce bien vrai ? Pierre, d'abord, tout à l'heure, quand j'ai dit que Jésus était de bonne famille, Pierre, c'était plus que ça. Pierre était pêcheur, et c'est-à-dire que Pierre était non seulement pêcheur, mais ce n'était pas un pauvre petit marin pêcheur d'un port de France minable. Pierre, c'était un PDG de PME. À l'époque, un pêcheur, il possédait des bateaux, il possédait des barques. Et aujourd'hui encore, quand on visite la maison de Pierre sur le bord du lac de Tibériade à Capernaum, eh bien, c'était une sacrée villa, si vous voulez. C'était pas une petite baraque en planche. Et chez Pierre, Jésus venait avec tous ses apôtres. Et donc, excusez du peu, une maison où on peut débarquer à 13 comme ça sans déranger, je ne sais pas combien de personnes ici possèdent un logement tel que l'on puisse débarquer à 13 personnes comme ça sans déranger. Ça veut dire que Pierre était effectivement plus qu'un notable, en quelque sorte. Quant à savoir si Pierre avait renoncé à tous ses biens, apparemment non. Parce que, sans arrêt dans l'Évangile, on voit que Pierre n'avait pas renoncé à son métier. On le voit qui continue à être pêcheur. On le voit encore dans sa barque. On le voit continuer à jouer son rôle de pêcheur. Et jusque même à la fin, après la résurrection du Christ, ils sont encore en train de pêcher avec ces épisodes de la pêche miraculeuse. Donc certainement que Pierre, je dirais, a renoncé à faire une carrière extraordinaire dans le métier de la pêche, si vous voulez. Donc Pierre a certainement, d'une certaine façon, amputé le succès professionnel de son travail. Mais en même temps, Pierre n'a pas tout quitté. Pierre a certainement conservé sa maison puisque Jésus y demeurait, et Pierre a conservé ses bateaux puisque Jésus y allait, et puisqu'il y a eu de nombreux épisodes de l'Évangile qui se passent dans les bateaux de Pierre. Et par conséquent, même si ces bateaux n'étaient pas des yachts de 60 mètres, eh bien c'était quand même pas rien du tout, et effectivement c'était quand même quelque chose. Alors tout ça pour dire que il faut faire attention, je crois qu'il y a là, quand on touche du doigt, si vous voulez, quelque chose qui est une sorte d'incohérence, en quelque sorte, entre un discours qui semble trop simple et puis quelque chose qui semble, en fait, ne pas tout à fait coller avec le discours. Cela laisse supposer que peut-être qu'au départ, on a peut-être un peu simplifié le discours et pris les choses d'une manière un petit peu trop radicale. Alors je crois qu'en effet, mais ça c'est une évidence, je crois, pour beaucoup de gens, ce qui est touché du pointé du doigt par le Christ, ce n'est pas tellement la richesse elle-même et le montant du compte en banque, mais plutôt le rapport à la richesse. Et que ce que dit Jésus par rapport à la richesse, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de la méfiance. Il dit « Attention, cette richesse comporte un danger. » Il y a un danger, et ce danger, c'est peut-être celui qui est le risque d'y mettre son cœur. Je pense effectivement qu'il y a un danger dans la richesse, parce qu'il y a un risque de s'y attacher, en quelque sorte. Et en effet, probablement que le verset qui résume le mieux l'attitude du Christ à cet égard, c'est quand il dit « Nul ne peut servir de maître, on ne peut pas servir à la fois Dieu et Mammon, Mammon qui était le dieu de la richesse, parce que où on aime l'un et on haït l'autre. » Donc la question, elle est bien là, et c'est-à-dire que la question, c'est pas de savoir si on est riche ou pauvre, la question, c'est de savoir qu'est-ce que l'on sert dans sa vie, à quoi l'on s'attache fondamentalement, et quel est le but, quel est le sens, quelle est la chose essentielle, fondamentale, quel est le cœur et le fond même de sa vie. Et de ce côté-là, je crois effectivement que notre vie ne peut pas être pilotée par deux objectifs essentiels, fondamentaux. À un moment donné, il faut bien choisir. Et on ne peut pas avoir plusieurs idéaux différents. Et donc, on ne peut pas avoir deux dieux, on ne peut pas avoir deux fois, on ne peut pas avoir deux maîtres dans sa vie. Il y a forcément un maître, et le reste est forcément secondaire. Mais ce n'est pas parce qu'une chose est secondaire qu'elle doit cesser d'être. Voilà. Donc nul ne doit servir de maître. À partir de là, effectivement, il y a un verset que j'aime beaucoup également, qui est dans le psaume 62, qui à mon avis résume ce que je crois être, enfin, ce qui en tout cas, moi, ma philosophie des choses concernant la richesse. Et ce psaume 62, je crois que c'est au verset 10, dit la chose suivante. Il dit « Si tu accumules des richesses, n'y mets pas ton cœur. » Alors je crois que c'est là effectivement une attitude très juste finalement et très nuancée. « Si tu accumules des richesses, n'y mets pas ton cœur. » Alors ça, c'est l'attitude juste et nuancée. Le problème, c'est que quand le Christ prêche, il est souvent juste, mais rarement nuancé. Et le Christ fait rarement dans la nuance quand il prêche. Et quand il prêche, il va au bout des choses. Quand il prêche, il dit les choses à fond. Il dit les choses d'une façon totale, d'une façon provocatrice. Et ces choses-là sont parfois tempérées par les évangélistes, parfois terrifiées par la façon avec laquelle Jésus a pu dire les choses. Parfois, les évangélistes ont essayé de tempérer un peu, mais je crois que le Christ ne s'amusait pas à essayer de tempérer. Je vais vous donner un exemple. Dans les Béatitudes, on a, je crois, dans l'évangile de Luc, la version radicale et, je dirais, violente du Christ. « Heureux les pauvres, malheur à vous les riches !» Matthieu, qui est parfois quelqu'un de plus tempéré, va dire « Non, heureux les pauvres, c'est quand même un peu dur. » Alors, Matthieu a bien compris que Jésus ne voulait évidemment pas dire que était plus heureux celui qui ne possédait rien et était forcément malheureux celui qui était riche. Et donc, Matthieu a bien compris que c'était idiot, cette affaire, c'est pas une question de compte en banque. Et donc, Matthieu va expliquer, et Matthieu va dire, dans sa version des Béatitudes, en Matthieu 5, « Heureux les pauvres, alors il rajoute « en esprit ». Ah voilà, « heureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté ». Ah oui, là je comprends, ça c'est beaucoup plus nuancé. À mon avis, Jésus n'a jamais dit ça. Jésus l'a dit « heureux les pauvres », paf, prenez ça dans la tête et maintenant réfléchissez. Mais Matthieu explique probablement, oui, ce que voulait dire Jésus. « Heureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté ». Et ça c'est vrai. L'important, ce n'est pas d'être riche ou d'être pauvre. L'important, c'est de savoir si l'on a un esprit de riche ou un esprit de pauvre. Et je dirais, il y a des pauvres qui ont des esprits de riches et des riches qui ont des esprits de pauvres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont rien, mais ils sont accrochés sur le peu qu'ils ont, comme des gens qui disent « j'ai rien, mais je le garde ». Ça, c'est les gens qui ont un esprit de richesse. Il y a des gens qui ont beaucoup, mais qui ont un esprit de pauvreté. Et qui disent « c'est vrai, j'ai du bien, mais dans le fond, je sais que je ne possède rien, et je sais que je ne possède pas l'essentiel, et je sais que dans le fond, je suis pauvre, parce que ce dont j'ai besoin, eh bien, ce n'est pas moi qui l'ai, mais c'est peut-être vous, c'est peut-être mon frère, ma sœur, celui que je rencontre, et peut-être que celui que je croise dans la rue, qui est peut-être SDF, qui est peut-être et n'a moins que moi, peut-être que lui, il a justement une richesse que je ne possède pas, et peut-être que sur ce point, justement, je suis pauvre. Et peut-être que moi, précisément, malgré mon compte en banque faramineux, eh bien, je suis un pauvre type. C'est ça, l'esprit de pauvreté. Eh bien, heureux celui qui, justement, sait avoir un esprit de pauvreté. Parce que l'important, bien sûr, c'est l'état d'esprit, et non l'état matériel dans lequel on se trouve. Et sans cesse, l'Évangile est toujours comme ça. L'Évangile est toute la prédication du Christ. Sans cesse, c'est de montrer que l'important, c'est ce que l'on a dans le cœur. L'important, c'est la disposition d'esprit. Donc je ne vois pas comment quiconque ait pu imaginer que le Christ ait pu penser que l'important soit le niveau de son compte en banque. Alors, quant au jeune homme riche, le jeune homme riche arrive et dit à Jésus, « Voilà, je veux hériter de la vie éternelle. » Et Jésus lui dit, « Eh bien, c'est facile, tu donnes tout. » Alors, pourquoi Jésus lui dit-il ça? D'abord, évidemment, ce n'est pas un commandement universel. On a, un petit peu plus loin, dans l'Évangile de Luc, l'histoire de Zachée, dont on nous dit qu'il était très riche, qui donne la moitié de son bien, et Jésus lui dit « c'est formidable, le salut est arrivé sur cette maison ». Donc un très riche qui donne la moitié, lui en reste quand même encore beaucoup, et par conséquent, Zachée n'a pas tout donné. Alors pourquoi au jeune homme riche lui demande-t-il de tout donner? Alors il y a beaucoup d'explications, et nous avons déjà fait pas mal de prédications sur ce sujet, je ne donnerai pas toutes les explications. Mais une explication peut-être, en passant comme ça, peut-être que justement, le jeune homme riche était trop attaché à ses richesses. C'était ça son problème. Alors que Jésus lui dit, ben tiens, toi là, ton problème c'est justement ça. Donc seule solution, débarrasse-toi de tout. Comme on dirait à un alcoolique, si vous voulez, plus une goutte d'alcool. Mais celui qui n'est pas alcoolique, pas de problème, vous pouvez boire un petit verre de vin de temps en temps. Mais toi, t'as un problème avec l'alcool. Donc, seule solution, plus une goutte. Peut-être que c'était ça. C'est que justement, c'était son problème à lui, la richesse. Et ça, ça montre que le propre de l'Évangile, justement, c'est qu'il n'y a pas une règle valable pour tout le monde. La loi est différente pour chacun. C'est à chacun de trouver, finalement, la façon avec laquelle il va être fidèle à l'Évangile ou comment il va trouver son propre équilibre. Mais surtout, dirais-je, Jésus ne dit pas au jeune homme riche qu'il faut qu'il devienne pauvre. Il ne lui dit pas « Deviens pauvre et alors tu seras bon, alors tu seras aimé par Dieu, alors tu seras sauvé. » Il ne lui dit pas ça. Il lui dit « Donne. » Et je pense qu'effectivement, l'important peut être qu'il est là. Il est là. L'important, ce n'est pas d'être pauvre ou riche. L'important, c'est de donner. L'important, c'est de savoir donner. Et pour une fois, je suis assez d'accord avec les péchés capitaux. Souvent, je ne suis pas bien d'accord. Mais là, c'est vrai. Les péchés capitaux ont bien dit, le péché, ce n'est pas la richesse. Le péché, c'est l'avarice. L'avarice, c'est l'incapacité à donner. Et effectivement, donner, ça, c'est difficile. C'est difficile parce que donner, c'est se priver soi-même de quelque chose auquel on tient. Et il est vrai que pour ça, il y a un travail préalable, qui consiste à être capable de savoir ce qui est vraiment important pour soi dans sa vie. Quelle est la vraie valeur? Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie? Qu'est-ce qui compte pour moi? Et là, il peut y avoir un problème. C'est que finalement, nous comptons tous, plus ou moins, sur des choses extérieures pour donner du sens à notre vie. Nous comptons tous, plus ou moins, sur nos réussites professionnelles, sur nos signes extérieurs, sur notre apparence, sur notre statut social. Et nous comptons tous plus ou moins sur l'admiration des autres, sur le respect des autres, sur la considération, sur le pouvoir. Oui, ne le niez pas, c'est des choses que nous aimons et après lesquelles nous courons plus ou moins. Et il est vrai qu'il y a donc toujours un petit travail à faire, de se demander finalement quel est l'essentiel de ma vie et est-ce que je serai capable de me défaire de ces choses-là. Alors l'épisode du jeune homme riche est intéressant parce que, bon, je ne crois pas que Jésus nous demande de le faire effectivement. Personne ne l'a jamais fait, personne ne le fait, enfin c'est un peu idiot comme commandement, dirais-je, c'est un peu exagéré. Mais ce n'est pas idiot de l'imaginer. Imaginez, voilà, donnez tout. Imaginez que vous le fassiez. Posez-vous la question, est-ce que vous seriez capable de le faire? Imaginez que vous puissiez tout retirer, que vous puissiez vous priver de tous les biens matériels. Est-ce que vous pourriez le faire? Et si vous le faisiez, que resterait-il de votre vie? Eh bien ça, c'est une excellente question. Et c'est une question, je crois, que tout chrétien devrait se poser régulièrement. Parce que c'est justement la question qui permet de justement de savoir un petit peu où on en est dans ce rapport entre Dieu et Mammon et d'essayer de savoir si Mammon n'est pas discrètement en train de remettre la main sur nous. Et des fois je dis à Mammon, bats les pattes. Mammon, je veux bien que tu vives à côté de moi, mais je ne te laisse pas mettre ta main crochue sur moi. Et donc j'imagine Mammon, hop, non, tu ne m'accroches pas. J'imagine que tu ne m'accroches pas. Difficile, mais je crois que c'est au moins mentalement un exercice intéressant à faire. Quant à la question, effectivement, au jeune homme riche, je vous disais, c'est, je dirais, une bonne provocation à faire. Où en est-on dans son travail de détachement? C'est un point à faire, et puis après, bon, bah, c'est à chacun de donner sa propre réponse, de savoir qu'est-ce que l'on donne. Qu'est-ce que l'on ne donne pas? Qu'est-ce que l'on garde? Parce que, après tout, chacun doit assumer sa propre réponse. Mais donner, ça c'est vraiment important. Donner, c'est important parce que... Tiens, pourquoi c'est important de donner après tout? Pourquoi est-ce si essentiel? Eh bien, je crois que c'est important parce que donner, eh bien, c'est l'enjeu et c'est le lieu même de la relation à l'autre. Donner, c'est sortir de son égoïsme. Donner, c'est du lien à l'autre. Donner, c'est se préoccuper de l'autre. Donner, c'est de l'amour. Quand on aime quelqu'un, on donne. Et donc, donner, c'est effectivement tout cela. Et je crois que si on ne donne pas, eh bien, on s'enferme. Quand on ne donne pas, c'est qu'on est dans l'égoïsme pur. Et on vit comme un rat solitaire et égoïste. Et on meurt comme un rat solitaire et égoïste. Et effectivement, je crois que c'est ça, l'enjeu. Alors maintenant, combien faut-il donner? Évidemment, ce n'est pas Jésus qui va vous le dire. Parce que Jésus est quand même plus malin que ça. Et l'Évangile ne donnera jamais la réponse. Faut-il donner 10% de ses biens? Faut-il donner 5%, 2% à l'Église? Si vous êtes un enfant, alors si vous avez deux Playmobil, pareil, il faut en donner un des deux à votre frère, et puis il faut le donner le moins beau ou le meilleur des deux. Et puis si vous avez beaucoup de jouets, peut-être que vous pourriez en donner un petit peu à des enfants. Ah, et puis si jamais il y a des enfants très malheureux qui sont à l'hôpital, ce serait bien de leur donner, parce que vous avez beaucoup de chance. Alors on peut aussi culpabiliser, vous qui avez tant de chance, tant de bonheur, tant de chance, etc., par tout l'argent que vous avez, pensez aux pauvres. Oui, on peut faire ça, Jésus ne s'amuse pas à ça. Je ne crois pas que ce soit ça, je ne pense pas que ce soit ça. L'Évangile ne s'amuse pas à essayer de nous dire, si vous avez deux jouets, donnez-en un, donnez 5%, 2%, 1%, 3%, 10%, 30%, 50%. Jésus ne s'amuse pas à ça. Ça, c'est à vous de le faire. C'est à vous, vous êtes assez grand quand même, de savoir ce que vous allez garder, ce que vous avez donné. C'est pour ça que Jésus, il ne va pas vous dire ce que vous allez faire. Il vous montre une direction. Donnez tout, paf, débrouillez-vous maintenant. Ça, ce n'est pas ce que vous avez à faire aujourd'hui. C'est un sens, c'est une direction. L'idéal, c'est de donner. Donner le maximum, donner le plus possible. C'est de donner tout ce que vous pouvez. Je ne peux pas tout donner, Seigneur. Eh bien, alors donne ce que tu peux, mais ne me demande pas à moi de mettre une limite à ta générosité. Le don, c'est un idéal. Le don, c'est un absolu. Et l'Évangile, c'est un absolu. Et maintenant, nous, eh bien oui, nous sommes là, tiraillés entre un absolu de don, un idéal de don, un idéal d'amour. Et en même temps, cet idéal d'amour nous tiraille aussi, parce que je dois tout donner aux pauvres, tout donner à ma famille, tout donner à mes enfants, tout donner à mes parents, tout donner aux SDF de la rue, tout donner aux pauvres du tiers-monde, tout donner aux Français qui travaillent, tout donner aux Français qui ne travaillent pas, tout donner aux handicapés, tout donner aux autres. Et je ne peux pas tout donner à tout le monde, oui, c'est vrai. Eh bien donc, je fais ce que je peux, voilà. Alors vous me direz, c'est difficile, mais heureusement, c'est ce que dit le Christ en conclusion de cette histoire du jeune homme riche. Pierre dit, mais alors, qui peut être sauvé si c'est comme ça? Personne. Parce que moi, je ne peux pas tout donner à tout le monde. De toute façon, c'est impossible. Et Jésus dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, de toute façon, n'ayez pas peur. Ce n'est pas en donnant que vous vous sauverez. Le salut, il vous est offert. Ça, c'est le corollaire indispensable à cet idéal absolu et je dirais, trop élevé. De toute manière, le salut, il vous est offert. C'est la grâce. Donc, heureusement qu'il y a la grâce. Vous êtes sauvés par grâce. De toute manière, Dieu vous demande trop, mais comme il vous donne tout, ça rééquilibre les choses, je dirais. Dieu vous en demande trop et vous demande tout, et en même temps, il vous donne tout. Et donc, ça rééquilibre un petit peu, je dirais, toute chose. Voyez-vous, l'Évangile n'est pas à appliquer bêtement. L'Évangile nous implique de réfléchir avec intelligence et nous indique simplement une direction, un idéal. L'histoire nous dit que le jeune homme riche s'en va tout triste, car il avait de grands biens. Alors, est-ce que c'est un échec? Eh bien, je ne pense pas. Parce que moi, j'ai confiance dans mon Jésus à moi. Et je ne crois pas que Jésus, c'est trompé dans cette histoire. Je pense au contraire que Jésus était un bon pédagogue. Et je crois que cette histoire, c'est une réussite. Parce que je crois que justement, le jeune homme riche, là, va comprendre quelque chose. Il a compris quelque chose qui va le mener à la vie éternelle. Il a compris une chose, c'est que ses grands biens ne le conduiront pas à la vie éternelle. Il a compris une chose, c'est qu'il est pécheur. Il va comprendre une chose, mais il va falloir qu'il travaille tout ça. C'est que le salut, il lui viendra d'une seule chose. Il ne lui viendra pas du fait de donner, parce qu'il n'aura jamais donné assez. Mais il ne lui viendra pas du fait de tout donner, parce qu'il ne pourra jamais tout donner. Mais il lui viendra de l'humilité. Le salut, il pourra le recevoir de Dieu quand justement il aura compris que ce qu'il possède, ce n'est finalement pas grand-chose. Et que ce n'est même pas au prix de tout ce qu'il possède qu'il pourrait gagner la vie éternelle, ni le bonheur. Mais que le salut, c'est quelque chose qu'il peut recevoir de Dieu quand il aura compris que tout cela, ce n'est rien. Alors, la vie et le bonheur ne seront pas loin pour lui. Amen.